France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Le numéro 1 des médicaments génériques est à vendre. Biogarant, plus de 30% du marché et la production pourrait être délocalisée à l'étranger. Un secteur dans le rouge à cause de prix trop bas, dénonce l'industrie pharmaceutique. Impunité zéro, sanctions immédiates. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
C'est ce que défend le Premier ministre contre la violence des jeunes.
Autorité, autorité, autorité dans ce discours d'une quarantaine de minutes. Aujourd'hui, c'est la République qui contre-attaque, a dit Gabriel Attal.
Discours de Gabriel Attal à Viry-Châtillon, où vous vous trouvez, Simon Le Baron. Nous sommes en Russie, où Moscou affirme que la France est désormais le premier importateur européen de gaz russe. Au Burkina Faso, 3 diplomates français vont être expulsés. On verra pourquoi. Et puis, il y a du nouveau sur votre smartphone. Bonjour Julien Penaud.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Apple obligé de respecter la loi européenne.
Et d'accepter le lancement de Alt Store, une boutique alternative à Apple Store où vous allez pouvoir télécharger vos applications.
On verra donc comment ça marche avec vous tout à l'heure. À 13h30, vous promenez dans les bois, vous expose désormais à une amende. C'est le revers de la loi contre l'engrillagement des forêts, votée pour préserver la biodiversité, mais qui entrave l'accès à la nature. Vous en avez fait l'expérience, appelez-nous au 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. On regarde dans nos assiettes, de nos aînés plus particulièrement. Juste avant 14h, c'est une chanson. L'écrivain Daniel Pénac demande Bobby Lapointe à Frédéric Pommier. Vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
On a tous dans notre trousse à médicaments, sur notre table de chevet peut-être, une boîte de médicaments génériques. Une boîte sur trois vendue en France. Mais le secteur est en difficulté. L'industrie s'estime victime des économies recherchées par le gouvernement sur les dépenses de santé. On va l'entendre dans un instant. Et la vente du numéro 1 Biogarant rajoute une inquiétude, celle de la délocalisation, puisque sur les 4 candidats à la reprise, 2 sont indiens. La filiale du géant Servier fournit pourtant une grande partie des pharmacies françaises. Bonjour Julien Morcelli.
Bonjour à tous.
Vous vous en êtes rendu compte en poussant la porte de l'une d'entre elles ce matin.
J'ai déjà rencontré Claude. Elle avait 42 fièvres, venue chercher des médicaments pour le mal de tête. Je lui ai demandé si elle connaissait la marque Biogarant.
Biogarant, non. Si on me donne le nom d'un médicament, je dirais oui, mais là comme ça, non.
Et c'est pourtant bien une boîte de paracétamol Biogarant que le pharmacien va lui remettre. L'entreprise produit 90% de ses médicaments en Europe et fournit une grande partie des pharmacies françaises comme celle d'Edwin Lemoine.
Dans la pharmacie, à peu près la vente des médicaments Biogarant, ça représente à peu près 25% des médicaments génériques qu'on vend.
Edwin Lemoine fait déjà face à d'importantes ruptures de stock et il craint que la situation se détériore en cas de rachat de Biogarant par des entreprises indiennes.
Pour moi, ça va être une catastrophe. C'est ce qu'on a déjà fait il y a 20 ans ou 30 ans à délocaliser beaucoup de nos entreprises à l'étranger. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui, donc avec des ruptures de plus en plus présentes sur le territoire. Et Biogarant n'y échappera pas non plus. On va arriver sur les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui sur d'autres génériqueurs où ils vendent à l'étranger, quoi. Donc on va rentrer dans une spirale où s'il n'y a pas des mesures qui seront prises rapidement par l'État et par les laboratoires, ça va devenir catastrophique en France.
Les pharmaciens prient donc pour que le ministère de l'économie s'oppose à la reprise de Biogarant par un acquéreur non européen. Pour le moment, Bercy ne fait pas de commentaire.
Voilà un sujet où il est question de souveraineté et un secteur, celui des génériques, qui dit aussi pâtir d'une politique de prix bas en France plus qu'ailleurs. Sur les 24 augmentations de prix récentes de Biogarant, seules 8 ont été acceptées à ce stade pour des hausses entre 4 centimes et 2,30 euros par boîte, rapporte par exemple le journal Les Échos ce matin. Malgré l'inflation, plus de la moitié des médicaments essentiels valent moins d'un euro, environ 10 centimes du comprimé selon l'association des génériques. Cela fragilise le secteur, d'autant plus, selon son directeur général Sébastien Trincard, qu'à cela s'ajoutent des contraintes fiscales trop lourdes qui empêchent les professionnels d'investir.
Aujourd'hui, la viabilité économique de notre secteur est remise en question à travers des prix trop bas, puisque le prix français est en moyenne 15, 30, voire 60% inférieur au prix pratiqué dans les autres pays européens. Mais surtout, ce qui dégrade la viabilité économique de nos produits et qui est susceptible de remettre en question la pérennité de ces produits sur le marché français, c'est un dispositif fiscal que l'on appelle la clause de sauvegarde, qui aujourd'hui représente en montant plus que l'accroissement de notre chiffre d'affaires. Ce dispositif fiscal engendre une profitabilité négative pour notre secteur du générique. Ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est pouvoir être entendu par les pouvoirs publics pour trouver des leviers permettant de rendre viable le modèle du générique en France.
Sébastien Trinquart avec Mariam El Kurdi. L'État vise encore cette année 850 millions d'euros d'économies sur les médicaments. L'État qui est venu en urgence soutenir les finances des EHPAD publics l'année dernière à hauteur de 100 millions d'euros, ça n'a pas suffi à éviter une fin d'année dans le rouge. Près de 85% des EHPAD publics enregistrent un résultat déficitaire pour 2023 selon une enquête de la Fédération hospitalière de France. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
C'est un niveau record. On dépasse largement le seuil d'alerte.
Oui, la situation est inédite. Les EHPAD n'ont pas l'habitude d'être en déficit chronique. En 2021, pour la plupart, leur compte était à l'équilibre. Mais depuis 2022 et l'inflation, la situation financière s'aggrave, y compris dans des établissements jusqu'alors sans difficulté. 800 millions de déficit au total. En cause, la hausse du prix de l'énergie, des denrées alimentaires, hausse des salaires aussi. Depuis quelques mois, les heures de nuit, les dimanches sont majorées. Une bonne chose pour rendre les métiers du grand âge plus attractifs. Mais les dotations de l'État ne sont pas toujours au rendez-vous, regrette la Fédération hospitalière de France. Résultat, d'après cette étude, près d'un EHPAD sur trois reporte le paiement de ses fournisseurs de certaines taxes. Plusieurs établissements publics seraient menacés de disparition. 100 millions d'euros d'aide d'urgence, vous l'avez dit, avaient pourtant été débloqués l'an dernier. La FHF appelle l'État, les départements à un effort financier de 5%. Un très mauvais signal alors que la population est vieillissante et que le secteur a besoin d'investir s'il veut répondre aux défis démographiques. En 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans.
Explication signée Alice Cachaner. Plus d'un million de sinistres par an. Les dégâts des eaux sont la première cause de sinistres dans les habitations liées aux fuites ou aux infiltrations. Alerte aujourd'hui de l'Observatoire de la sécurité des foyers. C'est un sursaut d'autorité qu'appelle le Premier ministre aujourd'hui pour marquer ses 100 premiers jours à Matignon. Gabriel Attal est à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, là où un jeune homme, Chemcheddine, est mort la semaine dernière après avoir été roué de coups près de son collège. Simon Le Baron, vous êtes donc sur place. Le message, c'est l'autorité partout et pour tous. Le Premier ministre lance toute une série de pistes, vous allez nous le dire, mais d'abord sur la tonalité. En pleine campagne des européennes, alors que la majorité est distancée par le RN, c'est un discours qui penche clairement à droite.
Oui, avec son mantra habituel, j'assume, quand il décrit notamment dès ses premiers mots une violence déchaînée, morbide et sans règles que les Français, dit-il, ont le sentiment de trop voir dans le poste.
Il faut les entendre, les Français, même lorsqu'on a le sentiment qu'ils ne disent rien, alors qu'au fond, ils n'en pensent pas moins. On fait rarement grève contre l'incivilité. On ne fait pas de mouvement social contre la violence. Et pourtant, je le dis, les Français ne supportent plus qu'on puisse s'affranchir de la règle commune. Ils ne le comprennent pas.
Le Premier ministre assume donc de parler à cette supposée majorité silencieuse qui en aurait assez des professionnels de l'excuse.
Alors devant vous, je le dis, la culture de l'excuse, c'est fini. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité. On t'apprend à la respecter.
Et puis il assume de s'élever contre le communautarisme à l'école.
Je vous le dis, il n'y aura pas de guerre des religions à l'école. Car l'école, la seule règle qui vaut, c'est la laïcité.
Gabriel Attal a beau citer Jaurès à la fin de son discours, il a en effet repris ce midi plusieurs incontournables des discours de la droite.
Et il lance beaucoup de pistes, hein, Simon, plus ou moins précises.
Oui, la proposition la plus forte et la plus neuve sans doute, c'est celle qui consiste à retirer des points sur le brevet ou sur le bac pour les élèves les plus perturbateurs, avec mention de cette sanction sur le dossier Parcoursup. Pour le reste, cela va de sanctions disciplinaires dès l'école primaire à l'obligation de se lever quand le professeur entre en classe, de travaux d'intérêt général imposés aux parents défaillants, à la signature d'un contrat avec l'établissement scolaire qui pourrait conduire à une amende en cas de non-respect de ses obligations, d'une meilleure régulation des écrans et des réseaux, à la création de travaux d'intérêt éducatif, sorte de travaux d'intérêt général pour les mineurs de moins de 15 ans, des pistes, vous l'avez dit, puisque le président a un peu coupé l'herbe sous le pied de son Premier ministre en lui demandant dès hier de lancer une grande concertation sur ces violences. Gabriel Attal a lui tenté de faire preuve d'autorité justement aujourd'hui en assurant vouloir des résultats dans 8 semaines, pas une de plus.
Simon Le Baron en direct de Viry-Châtillon avec Benjamin Reiss. À peine arrivé la nuit dernière en Guadeloupe, Gérald Darmanin avait lui annoncé un couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre contre la flambée de délinquance. Dès la semaine prochaine et pendant 2 mois, il leur sera interdit de sortir entre 20h et 5h du matin. Et puis à Grande-Synthe, 2 mineurs de 14 et 15 ans sont en garde à vue, interpellés dans la nuit de mardi après la mort d'un jeune homme de 22 ans violemment agressé sur le parking d'un supermarché. Le maire appelle à ne céder ni à la peur ni à l'esprit de vengeance.
Grande-Synthe n'est pas une zone de non-droit. Je condamne fermement toutes les manœuvres de récupération politique, comme je condamne les exactions constatées sur les réseaux sociaux. La fachosphère qui se met en place et qui fait un amalgame entre ce drame qui nous touche aujourd'hui ici à Grande-Synthe, qui oublie le bien vivre ensemble à Grande-Synthe, qui oublie tout le positif qui se fait dans cette ville particulièrement touchée aujourd'hui de façon effroyable par de l'incompréhension et par un drame. Ensemble, les Grands-Synthoises et les Grands-Synthois se relèveront. Nous sommes une ville ouvrière et savons vivre ensemble.
Martial Béillard avec France Bleu Nord. Et en pleine campagne des européennes, 7 candidats, Jordan Bardella compris, ce n'est pas à chaque fois, débattaient ce matin au MEDEF. Il y avait Raphaël Glucksmann, Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Valérie Ayé, Marion Maréchal et Marie Toussaint. 3 heures d'audition sur ce qui préoccupe l'organisation patronale, la réindustrialisation, le coût de l'énergie. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Et tout en haut de la pile peut-être, le trop-plein de normes européennes.
Oui, avec ce constat du MEDEF, la simplification, tout le monde en parle, mais on ne voit pas venir grand-chose. Alors à chaque candidat, 2 mesures sont demandées. Pour Jordan Bardella, la stratégie est tricolore, 3 dossiers, vert, orange, rouge.
Dans le dossier vert, vous allez mettre toutes les normes qui sont bonnes pour votre activité. Dans les dossiers orange, vous allez nous mettre toutes les normes qui sont bonnes pour votre filière, mais qui sont en l'état mal ficelé. Et dans les dossiers rouges, vous allez nous mettre toutes les folies qui vous empêchent et qui vous contraignent.
Le président du RN, repris à la volée par la tête de liste PS, Raphaël Glucksmann.
Quand vous dites « mettez des coches vertes, rouges, jaunes », et l'intérêt général et la perspective de l'effondrement climatique, c'est dans quelle coche ?
Le plateau se divise alors. À la rescousse des normes, les candidats de gauche, l'écologiste Marie Toussaint, appelle à la responsabilité.
Nous les écolos, on n'est pas là pour emmerder le monde. Ces normes pour lesquelles nous nous sommes battus, pourquoi est-ce qu'elles sont là ? Mais parce qu'on n'a pas le choix, je vous dis depuis tout à l'heure, on dépasse les limites planétaires. Ben c'est aussi parce que les engagements volontaires, eh ben ça n'a pas marché.
Face à eux, Jordan Bardella donc, mais aussi la zémouriste Marion Maréchal et le LR François-Xavier Bellamy qui défendent le « one in, two out », une norme imposée de supprimer. Tête de liste du camp présidentiel Valérie Ayé, elle défend tant bien que mal le bilan français.
J'ai donné l'exemple de la directive sur le paiement des congés payés dans le cas d'arrêt de travail. Typiquement, on n'a pas surtransposé, il y a eu un travail fin qui a été fait entre le gouvernement et le MEDEF.
Tout en promettant face à ce parterre de chefs d'entreprise de faire elle aussi pression sur la commission pour supprimer une norme à chaque nouvelle règle.
Élodie Forêt pour ce débat européen à Marseille. 14 personnes sont poursuivies, dont 2 anciens élus LR proches de Martine Vassal, soupçonnés d'avoir mis en place à des degrés divers un système de fausses procurations avant le second tour des municipales en 2020. 6 d'entre elles étaient convoquées ce matin pour une reconnaissance de culpabilité qui leur éviterait un procès. Les 8 autres seront jugées en septembre prochain.
France Inter, le 13-14. Hélène Philippe.
Et voici donc un nouveau signe de tension entre la France et le Burkina Faso. Les relations entre les deux pays n'ont fait que se dégrader depuis le coup d'État de septembre 2022 et l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Nouvel exemple ce matin. 3 diplomates français sont priés de quitter le Burkina Faso.
Oui, officiellement, le ministère des Affaires étrangères burkinabé leur reproche des activités subversives, ce qui veut tout et rien dire. Les diplomates auraient tenu des réunions avec des membres de la société civile. Pour l'instant, le Quai d'Orsay attend avant de communiquer, mais ce qui est certain, c'est que cela ne devrait pas changer grand-chose à la non-relation qui existe entre les deux pays. Le 1er décembre dernier déjà, 4 fonctionnaires français, des agents de renseignement selon les autorités burkinabées et des techniciens de maintenance informatique selon une source diplomatique française, avaient été arrêtés à Ouagadougou, puis mis en examen et incarcérés. Ils se trouvent aujourd'hui en résidence surveillée. Sans compter qu'un an auparavant, en 2022, le gouvernement burkinabé avait expulsé 2 Français qui travaillaient pour une société burkinabée soupçonnée par les autorités d'être des espions. Mais on peut ajouter aussi le départ des militaires français, la fin de la liaison Air France-Paris-Ouagadougou, la suspension aussi des médias français au Burkina, Le Monde, Radio France Internationale, France 24, Jeune Afrique, LCI. Ce qui est certain, c'est que Paris n'attend pas grand-chose des autorités burkinabées. Pour la diplomatie française, la question est plutôt de savoir si le pays va sombrer dans les dictatures pures et dures ou si la population, sentant le danger, aura la force de réagir et de s'affronter aux militaires.
Nathanaël Charbonnier, la villa d'un proche de Vladimir Poutine, le compagnon de son ex-femme, saisi à Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques, une propriété bien connue dans la région, taguée juste après l'invasion de l'Ukraine il y a 2 ans. La mafia de Poutine était-il écrit sur la façade de la maison? L'appartement parisien de l'ex-femme du porte-parole du Kremlin, lui aussi, a été saisi. L'enquête porte sur des soupçons de blanchiment aggravés. Depuis l'invasion de l'Ukraine il y a 2 ans, la France, comme l'Union européenne, cherche à se défaire de sa dépendance au gaz russe. Et c'est visiblement difficile, malgré les nouvelles sources d'approvisionnement, y compris de GNL américain, de gaz naturel liquéfié. La France reste la première acheteuse européenne de gaz russe, affirme la Russie. Et le Kremlin ne se prive pas de le faire savoir. Correspondance à Moscou, signée Sylvain Tronchet.
Ces derniers mois, le premier importateur européen de gaz russe restait la Hongrie. Le régime de Viktor Orban, qui maintient une certaine proximité avec Moscou, importe du gaz russe par gazoduc en grande quantité, ce que ne font plus la plupart des pays européens. Mais en février, les livraisons hongroises ont chuté, plaçant donc la France au premier rang des importateurs européens de gaz russe, mais de gaz naturel liquéfié, transporté par bateau. Cette réalité est connue, la France, comme d'autres pays de l'UE, l'Espagne, la Belgique, continue d'importer du GNL russe, la faute notamment au contrat signé par Total avant la guerre, la faute aussi à la difficulté de se désengager totalement du marché russe. Ceci dit, ce que les médias russes, qui font leur chou gras de cette information ce matin, ne précisent pas, c'est que les importations globales de gaz russe ont lourdement chuté. La Russie, qui représentait 40% des importations européennes, était tombée à 15% fin 2023. L'UE envisage de stopper complètement sa consommation de gaz russe en 2027, le tout dans un contexte de baisse des cours, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Moscou. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Et 2 hommes sont soupçonnés d'être des espions russes, ont été arrêtés en Allemagne ce matin. On soupçonne qu'ils aient tenté de planifier des actes de sabotage contre des installations américaines positionnées sur le sol allemand pour saper le soutien militaire à l'Ukraine. Et en Géorgie, 20 000 personnes ont encore manifesté hier soir contre la loi sur l'influence étrangère, tout juste votée. Les opposants y voient un texte très proche de celui russe sur les agents de l'étranger, utilisé par le Kremlin depuis des années pour faire taire les voix dissidentes. Un peu plus de 4 jours après l'attaque iranienne sur Israël, on ne sait toujours rien de la riposte militaire de l'État hébreu. Elle est clairement envisagée, mais quelle forme pourrait-elle prendre? Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Il y a différentes options.
Oui, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière cette réplique, Israël aura plusieurs objectifs. L'armée d'abord doit contenir la déflagration de cette réplique si elle veut rester alignée sur les États-Unis. Ensuite, l'effet doit être suffisant pour rétablir une dissuasion qui a volé en éclats. Et enfin, elle doit marquer les esprits pour redorer la légende des services israéliens qui a été sensiblement dégradée ces derniers mois avec les attaques du Hamas et de l'Iran. On peut donc soupçonner Israël de chercher à frapper fort sans commettre l'irréparable. Cela pourrait passer par une cyberattaque massive. Un super virus avait déjà été identifié il y a déjà un peu plus d'une décennie dans les systèmes informatiques iraniens. Et on sait qu'Israël possède une unité cyber militarisée de très haut niveau. L'autre piste qui pourrait cocher toutes les cases, c'est l'utilisation d'une bombe à impulsion électromagnétique. Israël est soupçonné de posséder la technologie. Ça permettrait de détruire des appareils électriques de façon très ciblée, sans provoquer de victimes. Mais certains spécialistes estiment que c'est sous le seuil nécessaire. On peut donc aussi imaginer une campagne d'assassinat ciblée, des opérations contre le complexe militaro-industriel ou contre des milices à l'étranger.
Et la chef de la diplomatie allemande redit ce matin que le G7 doit montrer une réaction après l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël. Annalena Baerbock qui s'exprime lors d'une réunion du forum en Italie. Une illustration de l'importance des décisions européennes dans notre quotidien. En l'occurrence, sur notre téléphone, un iPhone, si vous en avez un. Jusqu'à maintenant, on devait passer par l'Apple Store pour télécharger toutes ces applications, Facebook, Instagram, Doctolib. Anticoncurrentiel, a jugé l'Europe, qui a contraint le géant américain à ouvrir une boutique alternative. Le Alt Store, c'est son nom. Mettez à jour votre iPhone et vous pourrez l'utiliser. Julien Penaud, vous allez donc nous dire à quoi ça ressemble.
Alors, l'application en elle-même est une interface assez classique. Vous avez une barre de recherche, des catégories, les news, les nouvelles applications à télécharger. Et justement, Hélène, le catalogue est assez maigre pour l'instant. Seulement 2 sont disponibles. Mais le symbole est assez fort puisqu'Apple perd ici son total monopole. Et surtout, les utilisateurs vont pouvoir accéder à des applications qui leur étaient jusqu'à maintenant interdites. Par exemple, Delta. Alors là, ça va parler aux amateurs de jeux vidéo. Delta vous permet de jouer à la Game Boy ou à la Nintendo 64. Sur votre smartphone, c'est impossible avec l'Apple Store. On doit donc s'attendre à plus de diversité, plus de liberté aussi dans les contenus. De nouveaux développeurs d'applications vont toquer à la porte d'Alt Store après avoir été rejetés par les règles d'Apple.
Et ça, ça ne plaît pas aux géants américains.
Pas du tout. Il fait tout pour les retenir, ces développeurs, dans son écosystème. Aujourd'hui, de 15 à 30% de leurs revenus sont reversés à Apple via une commission. S'ils s'en vont, le manque à gagner est énorme. Alors la firme américaine a créé en mars dernier une nouvelle taxe pour les développeurs qui doivent payer 50 centimes à chaque fois qu'un utilisateur d'iPhone télécharge une application pour la première fois sur une boutique en dehors d'Apple Store. De quoi mettre en grande difficulté financière les développeurs qui seraient tentés de quitter l'univers à la pomme.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, Julien Penaud. Et ce sont les applis météo qui deviennent chèvres en ce moment face à ce temps complètement déréglé. La neige est revenue dans les Vosges alors qu'il faisait plus de 20 degrés le week-end dernier. Il y a 3 cm à la planche des Belles-Filles. C'en est frustrant pour les professionnels du tourisme, comme Damien Flure de l'auberge Langenberg au sommet du Ballon d'Alsace.
C'est une des plus grosses chutes de neige qu'on ait eues depuis le mois de décembre. Tous les saisonniers qui sont sur le site du Ballon d'Alsace sont repartis à leurs activités d'été. Et bah, les téléskis, malheureusement, ont été démontés pour l'entretien d'été, quoi. Donc le matériel est plus prêt pour accueillir de la neige à cette saison, quoi. Donc elle est plus là pour nous embêter qu'autre chose, quoi. Ces dernières années, on va dire que c'est quand même assez fréquent, malheureusement, ouais. Et la nature en souffre énormément. On a un peu peur d'ailleurs pour les myrtilles, parce que les fruits, avec les dernières chaleurs ces dernières semaines, avaient pris un peu d'avance. Donc là, je crois bien que sur les parties un petit peu exposées, on a des chances qu'elles aient pris le gel. Il va encore falloir s'approvisionner autre part que sur nos belles montagnes.
Voilà le chef de l'auberge Langenberg au téléphone de France Bleu Alsace. La météo complète dans quelques minutes. Sébastien Léa est en train de s'installer dans ce studio. Sa garrigue a bien changé en 50 ans. Marcel Pagnol la reconnaîtrait-il aujourd'hui? Alors que l'on célèbre en Provence le 50e anniversaire de la mort de l'écrivain né à Aubagne, le massif du Garlaban et les Verdoyantes, collines qui l'entourent ont marqué l'œuvre de l'écrivain. Beaucoup d'hommages sont prévus dans la région, la sortie d'une bande dessinée aussi. Mais derrière cette belle fête culturelle, il y a un bras de fer politique entre les descendants de Pagnol et la ville de Marseille, qui fera d'ailleurs des hommages à minima Juliette Pierron.
La ville prévoit simplement un dépôt de gerbes ainsi que l'inauguration de la promenade Jacqueline et Marcel Pagnol au cimetière de la Treille dans le 11e arrondissement. C'est la conséquence de la guerre juridique ouverte entre la municipalité et le petit-fils de l'écrivain, Nicolas Pagnol. L'été dernier, la mairie refuse de lui renouveler le contrat de gestion du château de la Buzine, le fameux château de ma mère. Un scandale culturel pour la droite locale. C'est donc Allo et son maire Les Républicains, Lionel Decala, qui récupèrent la plus grosse part du gâteau. Une programmation sur 2 ans, avec comme point d'orgue le musée Pagnol, inauguré en 2026. un projet à 4 millions d'euros soutenu par la région majoritairement à droite. Il y a aussi Aubagne, où est né l'écrivain. La ville se fait une place avec une année de festivités et l'inauguration aujourd'hui d'un buste à l'effigie de l'écrivain. À La Ciotat aussi, un quai Marcel Pagnol sera inauguré demain.
Juliette Pierron, France Bleu Provence. Le foot français rêve d'un triplé. Trois équipes tricolores en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Ce serait une première depuis près de 30 ans. C'est possible si Marseille et Lille font aussi bien ce soir que le Paris Saint-Germain. Battu 2-1 au match aller au Portugal, l'OM accueille le Benfica Lisbonne à 21h en quart de finale retour de la Ligue Europa. De son côté, Lille, qui s'est inclinée sur le même score la semaine dernière sur la pelouse anglaise d'Aston Villa, va tenter d'inverser la tendance, se qualifier à domicile pour la première demi-finale européenne de son histoire en Ligue Europa Conférence. Une mission difficile, mais pas impossible pour le LOSC, Nicolas Perronnet.
La cicatrice est moins douloureuse, mais il y a une semaine, Emiliano Martinez a encore fait très mal au football français. Le gardien d'Aston Villa et de la sélection argentine, bourreau des Bleus en finale de la Coupe du Monde, a multiplié les arrêts face aux Lillois, mais il a fini par s'incliner une fois en fin de match. Alors l'attaquant du LOSC, Jonathan David, reste confiant.
Pour ce deuxième match, il faut être plus malin et finalement juste être très opportuniste. Avoir la moindre chance et la mettre au fond.
Ce qui n'a donc pas été le cas au match aller. L'entraîneur Paulo Fonseca a quitté Birmingham avec des regrets.
Nous avons dominé, nous avons créé beaucoup d'occasions et on a préparé le match pour avoir la possibilité de gagner.
Même si Edon Zegrova, l'attaquant kosovar, meilleur joueur du moment au LOSC, sera absent ce soir, touché à la cheville, les Lillois comptent sur un stade Pierre Mauroy à guichet fermé pour tenter de renverser ce duel entre 4e de Première Ligue et de Ligue 1, deux équipes qui pourraient se retrouver la saison prochaine en Ligue des Champions.
Coup d'envoi de Lille Aston Villa ce soir, 18h45. Il est 13h26 sur Inter, à suivre dans la prochaine demi-heure. Un point complet donc, Météo France avec Sébastien Léas, et puis à 13h30, on se promène dans les bois, avec ou sans grillage. La loi votée l'année dernière par le Parlement tarde à se mettre en place, censée permettre aux animaux de circuler plus librement, on désinfecte en grillage. Elle pénalise aussi, et on le sait moins, les randonneurs qui traverseraient une propriété privée. Nous serons avec le président de l'association des Amis des Chemins de Sologne, très engagé sur le sujet, et avec une géographe qui travaille sur l'accès à la nature. Vous nous appelez au 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. Bonjour Marie-Luce Ribot.
Bonjour.
Du journal Sud-Ouest, on parle peu de l'alimentation des personnes âgées, c'est pourtant un enjeu des prochaines années.
Oui Hélène, avec une espérance de vie de 86 ans pour les hommes et de plus de 91 ans pour les femmes en 2060, il est impératif de se soucier de l'alimentation des personnes âgées. Heureusement, des initiatives fleurissent.
À tout à l'heure, Marie-Luce Ribot, vous nous en direz plus. C'est juste avant 14h, c'est une chanson avec Frédéric Pommier, des rediffusions cette semaine. Aujourd'hui, Daniel Pénac choisit Bobby Lapointe, la maman des poissons.
Si vous interviewiez ma fille, elle vous dirait que je lui ai cassé les pieds pendant toute son enfance en chantant finalement toujours les mêmes chansons en bagnole quand on allait en vacances. Et alors évidemment, parmi les chansons, il y avait « Si on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde », etc.
C'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde.
Elle est bien gentille, la maman des poissons. Jamais elle ne les gronde. Ce sera juste avant 14h et nous, on revient dans une minute.
France Inter présente
Les Odyssées des musées d'Orsay et de l'Orangerie, une série de podcasts originaux pour les 8-12 ans.
L'Or Grand Besançon.
Claude Monet, Berthe Morisot, Edgar Degas. Oh là là, quelle bande! De la première exposition à la création des nymphéas, je vous raconte une bonne tranche d'impressionnisme.
Les Odyssées des musées d'Orsay et de l'Orangerie.
Attention, ça va décoiffer. N'est-ce pas, Monet?
Ah non! Ma brosse! Elle me palette!
À télécharger sur l'application Radio France et franceinter.fr.
Avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
France Inter, c'est aussi sur les réseaux sociaux.
Sur Twitter, retrouvez toutes les infos en direct, la matinale en vidéo et les alertes.
Facebook, Twitter, Snap, Insta, Twitch, TikTok, abonnez-vous.
La météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Et c'est donc avec vous. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Hélène, bonjour
à tous. Il pleut sur l'est de la France.
Oui, l'instabilité persiste entre l'Alsace, l'est lorrain, la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que sur l'extrême sud-est et près des Pyrénées. Ces averses sont peu nombreuses, mais un coup de tonnerre n'est pas exclu. Le risque d'orage est surtout marqué cet après-midi entre les Alpes du Sud, la Côte d'Azur et la Corse. Par débordement, quelques averses peuvent atteindre les plages autour du golfe du Lion malgré la tramontane. Le Mistral remplit mieux son rôle entre le Gard, le Var, la Drôme et l'Ardèche avec maintenant de belles éclaircies. Et puis l'après-midi, il sera aussi bien ensoleillé entre les côtes de la Manche, les Ardennes jusqu'en Île-de-France, à la Touraine et au Poitou-Charentes, avec un ciel encore plus dégagé entre la Bretagne, le Cotentin et la Vendée. Le soleil va d'ailleurs se propager vers le nord Aquitain, le centre-val de Loire et l'ouest de la Lorraine cet après-midi. Et puis on garde des températures toujours nettement sous les valeurs de saison, malgré une petite hausse des maximales sous le soleil du nord-ouest. Prévoyez 10 degrés à Besançon et Mulhouse, 11 degrés à Lyon, 13 degrés à Lille et Rouen, 14 degrés pour Paris, Brest, Toulouse et Marseille, 16 degrés à Nantes, Bordeaux et Perpignan et 18 degrés pour Bastia. Et puis attention aussi aux petites gelées la nuit prochaine qui seront plus nombreuses que la nuit dernière.
Merci beaucoup Sébastien Léas, Météo France.
France Inter, le 13-14. Hélène Philippe.
Et l'on va passer le prochain quart d'heure en forêt, en Sologne d'abord, où une association se bat depuis de nombreuses années contre l'engrillagement des espaces naturels, ces clôtures qui délimitent les propriétés privées, mais nuisent au paysage, à la biodiversité. Bonjour Raymond Louis.
Bonjour.
Vous êtes le président des Amis des Chemins de Sologne, en direct d'Orléans. C'est en grande partie votre association qui a permis l'adoption d'une loi importante l'année dernière à l'Assemblée nationale pour que disparaissent du paysage les clôtures les plus hautes, les plus délabrées, pour faciliter le passage des animaux notamment. Si l'on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'un an après l'adoption du texte, les choses mettent du temps à se mettre en place, on attend encore certains décrets d'application, et que l'on a sans doute sous-estimé un autre effet de cette loi, la pénalisation des promeneurs qui s'aventureraient sur un terrain privé. Alice Nicoli, vous êtes aussi avec nous, bonjour.
Bonjour.
En direct de Grenoble, et vous êtes géographe, enseignante à l'université Savoie-Mont-Blanc à Chambéry. Vous avez fait votre thèse autour du libre accès des randonneurs aux rives des lacs de montagne notamment. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous attendons vos appels, chers auditeurs, au 01 45 24 7000. Rappelons d'abord rapidement avec vous, Raymond Louis, ce que dit cette loi qui a été promulguée en février 2023.
Eh bien, cette loi, elle incite les propriétaires à mettre les clôtures aux normes. Donc, la norme, c'est clôture de peu plus d'1,20 m de hauteur et 30 cm à la base de dégager pour laisser passer toute la petite faune. Alors, toute la petite faune, même si un sanglier passe le museau, il passe sous le grillage. Mmh. Mais tout ça pour ne plus avoir toute cette petite faune qui soit cloisonnée sur les propriétés, c'est une honte de voir ça, puisque les animaux sont restés nus, ça appartient à personne. Il n'y a pas à conserver des animaux sur des territoires, surtout qu'en Sologne, bien, c'est la chasse. Et malheureusement, il est fait des tableaux de chasse. C'est plus des tableaux de chasse, d'ailleurs, c'est du massacre.
Raymond, Louis, rappelez-nous d'où vient votre combat. Il remonte à longtemps, hein, il y a plus de 26 ans, je crois.
Oui, il y a 26 ans, on était des cavaliers avec mon épouse à l'époque, comme on le dit toujours, mais eh bien, on se promenait sur les chemins communaux, sur les chemins de randonnée, et tout à coup, on est arrivé en face des grilles canadiennes. C'est des grilles qui sont posées au sol pour empêcher les animaux de sortir des enclos, les gibiers, et nous, les chevaux passent pas. Donc, c'est là qu'on a démarré l'association avec mon épouse. On a fait déposer les grilles, et depuis ce temps-là, on se bat depuis 26 ans. Et on a été voir tous les grands élus de la région centre pour leur dire, surtout, faut faire attention, il y a des grillages qui s'installent partout, la petite faune ne peut plus circuler. Mais on nous disait, c'est pas grave. Et puis, à 6 ans, on a été voir notre député du Cher, François Cormier-Bouligeon, et il a eu le courage, parce qu'il fallait être courageux pour se lancer à ça, on se lance quand même devant des gens très puissants. Mais il a eu le courage de
commencer ce combat entamé il y a de longues années. J'ai envie de vous demander, Alice Nicoli, vous qui êtes géographe, est-ce qu'il existe une carte? Est-ce qu'on a une idée de la proportion d'espaces clos comme cela sur le territoire français?
Alors ça dépend ce qu'on considère comme espace clos. La situation de la Sologne notamment, elle est assez particulière avec, comme le rappelait Monsieur Louis, cette question de la chasse commerciale qui est aussi un des moteurs à cet engrillagement des espaces forestiers. Ailleurs, on trouvera d'autres types de clôtures en lien avec d'autres usages des espaces naturels. Mais de manière générale, un chiffre clair de qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui n'est pas accessible, ça n'existe pas à l'heure actuelle, c'est même un petit peu illusoire tant la diversité des situations empiriques est grande.
Pourquoi grillage-t-on ? Nous avons Pierre au téléphone. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de la région toulousaine.
Tout à fait.
Parlez-nous de votre expérience.
Ah ben nous, on a une expérience un petit peu inverse de ce qu'on entend, c'est-à-dire qu'on a toujours, ça fait bientôt plus de 30 ans qu'on habite à la campagne, plus de 25 ans au même endroit, et depuis plus de 25 ans, on a, tenant au terrain, un petit bout de bois de chêne, qu'on a toujours voulu laisser ouvert, justement, pour que la faune sauvage puisse passer, pour que les chevreuils puissent passer, pour que... Enfin bref, que toute la faune puisse vivre. Mais on a aussi un autre problème, c'est qu'on a eu des enfants jeunes, maintenant on a des poules, on a des chiens, et malheureusement, le fait que le terrain ne soit pas grillagé, bah, ça donnait régulièrement des invasions de chiens de chasse, des meutes de chiens de chasse, complètement hystériques, que les chasseurs suivent de loin sur la route, parce que les chiens ont des petits GPS sur eux. Et ces chiens, quand j'ai des meutes, c'est 6, 7, 8 chiens des fois. Et du coup, bah, quand ils arrivent sur le terrain, bah, soit les poules sont dehors et à ce moment-là, bah, il n'y a plus de poules. Soit les enfants sont dehors et bah, il faut les rentrer parce que les chiens sont agressifs. Enfin bon, bref.
Donc vous avez grillagé, Pierre, pour vous protéger des chiens de chasse qui pouvaient traverser votre propriété. C'est bien ce que j'ai compris. Il y a donc bien cette question, Raymond-Louis, aussi de cohabitation entre les chasseurs et les non-chasseurs dans ce sujet d'engrillagement des forêts.
Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'avec la loi qui a été votée l'an dernier, tout pavillon qui est à la campagne ou aux abords de la campagne a le droit de se clôturer hermétiquement, mais à pas plus de 150 mètres des bâtiments. Mais on a le droit de clôturer sa maison, de clôturer son parc. Ça fait 150 mètres, ça fait déjà un petit parc autour de la maison. Ça, c'est dans les choses qu'on a réussi à avoir et laisser tout le reste de la nature ouvert, par contre.
Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des contrôles? Parce que la loi donc a été adoptée il y a un an, on n'a pas encore tous les décrets d'application, on l'a compris. Est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce qu'il y a des résistances, Raymond-Louis, depuis un an?
Oui, tout à fait. Il y a des contrôles, puisque avec mon épouse, on est des battants à fond, et on va sur le terrain quand quelqu'un nous signale qu'il y a une clôture qui s'installe à droite à gauche. On y va, on fait un point GPS, on regarde bien ce qu'il y a comme clôture qui est en train de s'installer. Et là, on fait un signalement à l'OFB et aussi au ministère de l'Agriculture, ministère de la Transition écologique, au préfet de région. Donc, tous ces gens-là sont avertis et les agents de l'OFB viennent sur le terrain contrôler ce qui est fait. Et si c'est pas dans les normes, même que la loi et les décrets sont pas tous sortis, ben, il y a un rappel à la loi, puis il y a des sanctions qui ont déjà été
Oui, il y a plusieurs instructions déjà à Blois, Orléans notamment. Il faut peut-être faire un rappel rapide à ce stade. Qu'est-ce qui est accessible et qu'est-ce qui ne l'est pas? Les forêts privées, les forêts domaniales. Alice Nicoli, où a-t-on le droit de se promener et de ne pas se promener en forêt?
Cette question, elle dépend aussi un petit peu de est-ce qu'on parle de avant le 2 février 2023 ou depuis. Mais de manière générale, que ce soit en forêt ou dans les autres types d'espaces naturels, dans la pratique de l'usager, la propriété privée, sauf dans les cas où elle est matérialisée, mais qui ne sont pas forcément à l'échelle nationale les cas les plus courants, la propriété privée, elle est en fait assez transparente. Quand on pratique les espaces naturels, on traverse des espaces dont les statuts de propriété vont être très variables. Ça peut être des terrains publics, ça peut être des terrains privés, on peut aussi passer, sans le savoir, d'une parcelle qui appartient à monsieur X à une parcelle qui va appartenir à madame Y. Donc, dans la pratique des espaces, la propriété privée, elle est certes importante, mais pour l'usager, en règle générale, j'ai envie de dire, elle ne se voit pas. Et ouais. Ce qui se passe, c'est que cette loi donc du 2 février 2023, donc elle a ce volet qui était sa motivation principale de désengrillagement. Et encore, le terme est un peu impropre, parce que comme l'a rappelé Monsieur Louis, il ne s'agit pas de désengrillager.
Il y a toujours des clôtures, mais moins hautes et installées à 30 cm du sol. Et vous alliez évoquer cet aspect dont la loi a peut-être sous-estimé l'effet, c'est la pénalisation du promeneur. C'est ce dont vous alliez nous parler. En clair, la contrepartie, on demande aux propriétaires d'adapter leur clôture pour le passage des animaux. Et en échange, le randonneur qui traverse une propriété risque aujourd'hui une amende, Alice Nicoli.
Alors effectivement, ça c'est l'article 8 de la loi qui prévoit une amende de 4e classe, donc de 135 euros, pour quiconque traverse un espace privé si le caractère privé du lieu est matérialisé. C'est-à-dire qu'un simple panneau propriété privée va suffire à matérialiser le caractère privé. Mais là où c'est gênant de présenter cette disposition comme une contrepartie, c'est que, comme je venais de le rappeler, les clôtures ne disparaissent pas. On les rend perméables aux animaux, mais ça reste des clôtures pour les humains. Donc d'un côté, on a simplement réduit le degré d'imperméabilité des clôtures pour la faune, et de l'autre, on a pénalisé l'accès des êtres humains à la nature. Donc le problème, en fait, il est là, c'est que cette loi, pour l'instant, l'article 8 sur la pénalisation de l'accès à la nature, il a été à ce jour utilisé à 3 endroits différents, donc dans les Vosges, en Isère et dans les Alpes-Maritimes, par des propriétaires de terrains qui n'avaient jamais été clôturés. Donc cet article de la loi, il est utilisé de manière finalement assez autonome de ce qui est souvent présenté comme l'objet principal de la loi, à savoir le, avec des guillemets, désengrillagement.
Jérôme est en ligne avec nous. Bonjour Jérôme, vous nous appelez d'Alsace.
Bonjour. Oui, justement, je fais partie des cas signalés. Donc moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Mon Village Rimbach. Et donc nous sommes...
Oh Jérôme, on ne vous entend plus. Jérôme, vous faites partie d'un collectif « Mon village se bat contre l'engrillagement ». C'est ce que vous essayez de nous expliquer.
Est-ce que vous m'entendez mieux là ?
Oui, absolument.
Voilà, alors c'est pas contre l'engrillagement. Voilà, donc je fais partie des cas signalés. Donc nous sommes un petit collectif qui s'appelle « Mon village Rimbach », qui fait partie de l'Union des collectifs de France, qui réunit effectivement le cas de Côte d'Azur, également le cas de l'Isère. Donc nous avons eu quoi? Tout simplement un propriétaire qui a acheté 64 hectares et qui a saccagé à coup de bulldozer un sentier qui était un sentier historique balisé par le club vosgien, qui n'a absolument rien pu faire. Et nous sommes dans la situation où ce propriétaire effectivement a mis des caméras de chasse et des signalements interdisant complètement l'accès. Je voulais dire qu'on se bat là-dessus, on se bat avec le collectif pour cet accès. Dans les Vosges, il y a toujours eu des problèmes, mais c'est des chemins qui sont vraiment historiques. Le club vosgien fait partie des clubs qui ont commencé à baliser des chemins de randonnée, et on se retrouve effectivement avec un accès qui est totalement bloqué. Je voulais juste souligner cette espèce d'opposition qu'on fait toujours entre randonneurs et chasseurs, mais chez nous, les chasseurs sont pas contents, parce qu'en fait, on est en train de recréer des espèces de safaris en France. C'est-à-dire qu'on bloque complètement l'accès en randonneur pour faire une chasse privée et qui n'a rien à voir avec une utilisation, j'allais dire, plus traditionnelle de la chasse. Donc, on est en train de se mobiliser. On a tenté, effectivement, une première fois auprès de parlementaires d'essayer de dépénaliser cet accès et on continue à se mobiliser.
Il y a des textes, effectivement, qui sont passés en commission des lois fin mars, rejetés pour le moment. Merci beaucoup pour votre témoignage. Jérôme, je voulais savoir ce que vous en pensiez, Raymond Louis. Vous qui avez milité pour cette loi, comment réagissez-vous à ce que dit Jérôme depuis l'Alsace ?
Bien déjà, ce que je voulais dire, c'est que il y a bien du désengrillagement de la Sologne qui va se produire, parce qu'on a beaucoup de clôtures qui font 2 mètres d'hauteur et qui sont même enterrées dans le sol avec un double grillage à la base. Et ça, pour se mettre aux normes, ces gens-là, ils vont pas couper la moitié du grillage sur la hauteur et puis dégager du sol. Là, ils vont arracher les clôtures. Ils sont obligés d'arracher les clôtures pour pouvoir rendre la nature ouverte.
Mais sur la pénalisation des randonneurs, Raymond Louis.
Ben oui, pénalisation des randonneurs. Ça, c'est inévitable. Il fallait bien que dans la loi, il y ait une pénalisation des randonneurs, là, parce qu'il y a vraiment n'importe quoi qui se fait aussi. Il y a quand même pas mal de gens qui vont sur des territoires de chasse, des territoires qui sont ouverts.
Alors Alain nous dit effectivement sur l'appli de Radio France, l'ouverture au public d'un bois à côté de chez moi était un désastre parce que les gens n'ont pas été tous précautionneux. Mais tout de même, ce débat passionne et à travers un large spectre. Il y a quelques jours dans le journal Le Monde, c'est l'écrivain et philosophe Gaspard Koenig avec la députée écologiste Lisa Bellouco qui signait une tribune pour dire la nécessité d'avoir accès à la nature. Ça affermit la conscience écologique. Alice Nicoli, vous qui êtes géographe, vous le pensez aussi ?
Bah oui, on peut considérer que l'accès à la nature a un certain nombre de bienfaits. Donc bon, il y a cet argument qu'on entend souvent de pour protéger la nature, il faut la connaître. Mais ce qu'on sait aussi, ce qui est bien démontré par la littérature scientifique, c'est que le contact avec la nature a des effets positifs sur la santé, en particulier sur la santé mentale. Donc effectivement, l'accès à la nature, c'est un vrai enjeu d'intérêt général. Et je voudrais simplement revenir sur cet argument qu'on entend souvent des dégradations et des incivilités que commettrait le public. Ça, c'est un argument ultra classique qu'on retrouve dans tous les conflits de cet ordre. Pourtant, les outils pour régler ces cas-là, les cas de réelle dégradation des milieux, ils existent déjà. Donc il s'agirait sans doute plutôt de les appliquer plutôt que de venir pénaliser l'ensemble des usagers qui souhaitent accéder à la nature. Et du coup, l'enjeu est sans doute plutôt autour de l'organisation de cet accès à la nature dans le cadre de dispositifs qui existent déjà, plutôt que la pénalisation pure et simple de l'ensemble de l'accès, donc le simple fait de circuler sur des espaces de propriété privée qui sont, Monsieur Louis l'a bien rappelé tout à l'heure, qui ne sont pas les espaces les plus proches du domicile. Quand on habite dans des espaces ruraux ou naturels, on a toujours le droit de se clôturer jusqu'à 150 mètres de l'habitation ou du siège de l'exploitation agricole et forestière. Donc il ne s'agit pas de dire que tout le monde va aller déferler dans les jardins des gens. Il s'agit bien de traverser de vastes espaces naturels.
Il faut aussi rappeler, Alice Nicolet, que les trois quarts du parc forestier français sont privés. C'est ce que nous rappelle Yann sur l'appli Radio France. Vous êtes d'accord, Raymond Louis, avec ce que vient de dire Alice Nicolet ?
Avec madame, oui. Mais il faut bien savoir qu'en Sologne, enfin, principalement en Sologne, c'est la région que je connais bien, toutes les propriétés sont privées. Et on n'aimerait pas que quelqu'un vienne dans notre jardin pour cueillir des fleurs ou dans le potager cueillir les légumes. Et je me mets aussi à la place des propriétaires, voir des gens, parce que ça arrive quand même assez souvent, qu'il y a des gens qui vont aux champignons, qui rentrent même avec les chiens sur des territoires de chasse. Et faut se mettre à la place de tout le monde aussi. Je comprends qu'ils ont du mal à acheter des propriétés, à les entretenir. Et ils ont pas envie de voir des gens venir chez eux à tout bout de champ. Faut faire la part des choses. C'est pas toujours facile. Moi, j'aime beaucoup la nature aussi. J'ai le bonheur d'habiter en Sologne. J'en profite de la nature, mais ça, je me mets à la place des propriétaires aussi, malgré tout.
On entend voilà. À vous écouter tous les deux le difficile équilibre à trouver sur cette question du partage de l'accès à la nature pour respecter la biodiversité, la propriété privée et l'accès à la nature pour tous. Raymond Louis, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Les Amis et des Chemins de Sologne, 26 ans d'âge et d'engagement. Vous étiez en direct d'Orléans. Et merci à vous, Alice Nicolet, géographe enseignante à l'université de Savoie-Mont-Blanc à Chambéry. Vous étiez vous-même en direct de Grenoble grâce à nos confrères des deux côtés de France Bleu Orléans et France Bleu Isère. On reste en forêt avec notre feuilleton à suivre. Un feuilleton qui, comme chaque jour de la semaine, nous emmène dans un parc d'attractions, celui-là, Nigloland, dans l'Aube, niché en pleine forêt. La nature y a autant sa place que les manèges. Et c'est l'un des principaux employeurs du département. Ajra Mohamed a rencontré Marine et Géraldine, embauchées pour la saison.
Bonjour.
Bonjour madame.
Je vais prendre un café et un croissant, s'il vous plaît.
Oui, expresso allongé.
Expresso.
Sur place à emporter.
Sur place.
Je vous prépare ça.
Merci.
C'est tout ce qu'il vous fallait ? Eh bien, ça me fera 4,20€, s'il vous plaît. Merci. Bonne journée, au revoir. Alors, je suis Marine Simoneau et responsable adjointe du restaurant Le Grill. Je viens d'arriver à Nigloland, c'est ma première saison complète. Avant, j'étais dans la restauration déjà, mais vraiment un petit restaurant traditionnel. Le restaurant a été vendu, donc du coup, il a bien fallu se réadapter. Nigloland, je connais depuis que je suis toute petite. On venait forcément tous les ans, même plusieurs fois dans l'année avec nos familles. Et après, en premier job, même étudiant à 18 ans, en dehors des études, c'est très pratique. Bonjour.
Salut, ça va ?
Oui.
Je viens de me servir en café.
Eh bien, à tous.
Donc le patron Rodolphe Gélis se sert son café. Vous connaissez même la machine à café ici ?
Je la connais par cœur. Je viens toujours boire mes cafés ici, mais en vrai, c'est un petit peu chez moi, donc je fais ce que je veux. Je me sers. Ça va, premier jour ?
Ouais, ça va.
C'était bien ? Le service blanc hier, c'est bien passé.
Bah, moi, j'ai bien aimé, mais...
T'as une sacrée patate quand même, toi.
C'est toujours comme ça.
Donc,
non, mais c'était carré, nickel.
Combien d'employés cette saison?
Tout de suite, on tourne autour de 400. L'été, on va monter à 520-530. Ils viennent du coin, mais pas que. J'ai vu un agent de sécurité tout à l'heure qui venait de Rouen. Il y en a qui viennent louer des maisons ici, qui viennent de très loin. Il y en a de Marseille aussi. Donc, et on a de la chance. À Troyes, il y a de plus en plus d'écoles de commerce, d'écoles supérieures. Du coup, ça nous fait un bon vivier, réservoir de jeunes étudiants qui ont besoin de bosser. Voilà, on se rend de plus en plus compte que notre entreprise grandit. Elle a un vrai rôle social localement. Donc, voilà, c'est du win-win.
Donc là, on est sur la cabine des hérissons. Là, la petite fille descend. Je la ramène.
Le hérisson, c'est une petite voiture, en fait.
C'est la petite voiture, voilà, c'est ça. Là, j'attends que le hérisson passe pour envoyer le deuxième. C'est parti! Allez-y!
Vous appelez comment?
Géraldine Frossard. J'ai 61 ans.
Vous faisiez quoi avant, je peux vous demander?
J'étais une ménagère à domicile chez personnes âgées.
Et vous avez dû arrêter?
Suite à une inaptitude de santé.
Et ici, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre mission au quotidien?
Je suis pilote sur la traction des hérissons, donc j'appuie sur un bouton. Je peux être aussi bien assise que debout, et ce qui me convient par rapport à mon handicap. Quand j'ai retrouvé Nick Lolande, j'ai eu un soulagement avec une opportunité derrière. Parce que même là, en hiver, j'ai essayé de chercher quelque chose parce que je suis au chômage. Donc, il me pousse un peu à trouver quelque chose derrière. Hein. Donc, j'ai rien trouvé. Hein. J'aime le contact avec les gens et c'est ce qui m'a poussé à venir à Nick Lolande.
Surtout qu'on peut servir à quelque chose. Ça fait du bien de...
Oui, ça fait du bien, oui. Bah, je veux dire qu'on est capable de faire quelque chose, que voilà, c'est pas parce qu'on est presque à la retraite qu'on n'a pas le droit à cette chance-là.
Reportage Ajra Mohamad réalisé par Stéphane Ronxin. Demain pour le dernier épisode, vous entendrez à quel point l'histoire de ce parc est une histoire de famille.
France Inter, le 13-14.
À 13h50, c'est la France. Le jeudi, c'est Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Vous regardez dans nos assiettes, Marie-Luce. Et aujourd'hui, dans celle des personnes âgées, on commence juste à en mesurer l'enjeu.
Ça se passe en ce moment à Plouguerneau dans le Finistère. Depuis la fin du mois de mars, le Centre communal d'action sociale organise un cycle de formation culinaire à destination des personnes de plus de 60 ans. L'objectif, transmettre le plaisir de cuisiner et améliorer l'alimentation de ceux qui n'ont plus l'énergie et le goût d'allumer leur fourneau. Des ateliers comme à Plouguerneau, il y en a de plus en plus, un peu partout en France. Ils révèlent une chose, on ne se soucie pas assez des besoins nutritionnels des personnes âgées qui, contrairement aux idées reçues, ne sont pas moins importants qu'à d'autres âges de la vie. Or, il y a urgence.
Pourquoi ?
Parce que les chiffres sont là, Hélène. Selon l'INSEE, les plus de 60 ans seront 20 millions en France en 2030, contre 15 millions aujourd'hui. Cette future société aux cheveux blancs, il vaut mieux l'imaginer en forme, donc bien nourrie. Cette perspective aiguise d'ailleurs l'appétit de l'industrie agroalimentaire. Des produits clairement identifiés pour le 3e et le 4e âge s'apprêtent à déferler dans les linéaires. On parle de mini-cakes et de bouchées surgelées hyperprotéinées, de quiches mixées et même de petits pots, drôle de retour au temps de l'innocence.
Mais l'enjeu, c'est aussi d'enrayer la malnutrition, Marie-Luce, maladie silencieuse dont on parle finalement assez peu.
Oui, on estime actuellement que 2 millions de Français sont victimes de malnutrition et la plupart ont plus de 60 ans. La maladie, la perte d'autonomie et surtout la solitude sont autant de facteurs qui peu à peu coupent l'appétit. De ce constat, Laureline Monsalier, 34 ans, a créé Maison Papille. En mode batch cooking et pour 63 euros, un chef vient préparer les repas à domicile pour toute la semaine. Cette idée a germé pendant la pandémie, nous dit-elle. J'étais à Bordeaux, ma grand-mère à Lyon. Je l'appelais et je me rendais compte qu'elle mangeait moins, ne se nourrissait que de tartines de pain, de beurre et de chocolat en poudre. « Je voudrais que tu viennes », me disait-elle régulièrement. J'ai pris conscience à quel point le lien social était au cœur du problème de son alimentation. C'est ce qui m'a convaincue de créer Maison Papille. Laureline détermine avec chacun quels sont ses besoins nutritionnelle, ses éventuelles pathologies ou soucis de déglutition. Le cuisinier prend le relais. Diabétique, je ne parvenais pas à me préparer des menus équilibrés, témoigne Nicole Morin, 77 ans. Désormais, je mange correctement. Je vois les plats préparés devant moi, je sens les odeurs dans ma cuisine, je discute. Tout cela ouvre bien plus l'appétit que le portage de repas à domicile, un service qui ne peut, on le comprend, s'adapter aux besoins et au goût de chacun.
Et il paraît que la blanquette est l'un des plats préférés des seniors.
Voici donc la recette de Laureline. Faites dorer 1 kg de morceaux de viande de veau dans un peu d'huile d'olive. Rajoutez 2 cuillères à soupe de farine pour enrober la viande. Mouillez avec 25 centilitres de vin blanc. Baissez le feu et ajoutez 1 cube de bouillon de légumes. Ajustez avec de l'eau pour couvrir la viande et ajoutez 2 carottes coupées en rondelles et 1 oignon émincé. Laissez mijoter 1 heure, ça sent déjà très bon. Versez 150 g de champignons émincés et 5 minutes avant de servir, 25 centilitres de crème liquide battue avec un œuf et un jus de citron. Salé et poivré, et pas besoin d'attendre 60 ans pour déguster.
Elle sera sûrement très bonne, cette blanquette. Merci Marie-Luce Ribaud du journal Ouest-France. À jeudi prochain et cette semaine, on prend plaisir à réécouter quelques-unes des rencontres mémorables de Frédéric Pommier autour d'une chanson. Aujourd'hui, Daniel Pénac nous évoque la maman des poissons de Bobby Lapointe qui, avant de se lancer dans la musique, fut dans le désordre électricien, scaphandrier, commerçant. Et Frédéric Pommier a d'abord demandé à l'écrivain de quand datait sa découverte de Bobby Lapointe.
Alors, quand ai-je découvert Bobby Lapointe? Eh bien, je m'en souviens pas. Autrement dit, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec Bobby Lapointe. Et pourtant, je suis pas un érudit. C'est-à-dire, je connais pas toutes ses chansons. Les quelques-unes que je connais, je les connais pas en entier. Mais elles sont en moi. Si je prends ma douche sur le rythme de la douche, tapa 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 tout dit, à ta doudou. Si vous intervieviez ma fille, elle vous dirait que je lui ai cassé les pieds pendant toute son enfance en chantant finalement toujours les mêmes chansons en bagnole quand on allait en vacances. Et alors évidemment, parmi les chansons, il y avait « Si on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde », etc.
C'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille.
Je l'ai apprise à quantité d'enfants, plusieurs centaines. C'est quand je suis invité dans les écoles, dans les classes, et les petites classes, même les grandes d'ailleurs. Je dis, bon allez, maintenant on va chanter une chanson. Si on ne voit pas pleurer les poissons.
Pourquoi celle-ci?
Parce que les gosses font des gestes. Les yeux ronds, les sourcils qui se froncent, le citron qu'on presse. Voilà. Ma fille a découvert la poésie quand il dit...
La maman des poissons, elle est bien gentille.
Elle avait 7-8 ans comme ça, elle était sur mes épaules, on allait à l'école... Et je lui chante ça, s'ils veulent être maqueros, c'est pas elle qui les empêche de se faire des ribles sur le dos dans un banc à peinture fraîche. Ah, mais papa, pourquoi des ribles? Ils sont quoi? Ils sont assis sur des bancs? Ah, tu vois, le banc, c'est un banc où on s'assoit, où on peut s'allonger et dormir. Mais t'as aussi, quand les poissons sont en bande, on appelle des bancs de poissons. Et le soir, elle me dit, mais dis donc, papa, les bancs et le banc, là. Mais alors, c'est ça, la poésie. C'est exactement ça, ma chérie.
Bobby Lapointe, c'est du sourire avant toute chose?
Ouais. Ouais. Mais comme tous les grands picoleurs, il y a du tragique derrière, certainement. Et comme le gars se confie pas du tout, on peut absolument pas savoir de quelle nature est ce tragique. Mais il y en a. Il a dû en baver.
Et maintenant, qui se pointe? C'est le gars Bobby Lapointe. Farfelu, rigolo, insolite et costaud.
Quand il arrivait pour ouvrir un concert de Brassens, il était tellement bourré que Brassens disait « Bobby fermera la boutique, hein, il va pas l'ouvrir ». Et Bobby chantait après Brassens. Je l'ai vu 4 fois. En vrai, c'était à un arrêt d'autobus. Et je me suis dit « Merde, Bobby, mon Bobby ». Bon, théoriquement, on se précipite et on va se jeter dans les bras de son idole. Mais c'était pas du tout le genre dans les bras duquel on pouvait se jeter. Il attendait ce bus, l'air assez sombre, peut-être bourré, autant que le bus. Je me suis dit, je vais l'emmerder.
Donc vous ne lui avez pas parlé?
Non, j'ai pas parlé. Mais j'ai adoré ce gars-là et son travail. Enfin, son travail, ses chansons. Tu le sentais habiter, le gars, quoi.
La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et moi, je l'aime bien avec du citron. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde.
Et est-ce qu'il y a du Bobby Lapointe en vous ?
Ben, il y a Bobby Lapointe. Il y a lui qui me visite très, très, très souvent. C'est comme de la brise, hein, une petite feuille morte de Bobby qui me traverse, puis on est heureux.
La maman des poissons, elle est bien gentille.
C'est une chanson avec Daniel Pénac qui fera paraître cet automne deux adaptations de ses livres en BD, Les mots sont poilus et L'œil du loup.